Bonjour Jean-Christophe Dumont.
Bonjour.
Un nouveau sommet sur les migrants va avoir lieu aujourd'hui à Malte. Les dirigeants des 28 États membres de l'Union européenne et de 35 pays africains veulent s'attaquer ensemble aux causes profondes du problème. L'Union européenne va demander à l'Afrique d'accepter davantage de retours de ces migrants irréguliers indésirables en Europe contre la promesse d'une aide au développement renforcée. Dans un rapport que vous avez publié récemment à l'OCDE, vous jugiez urgent de s'attaquer aux racines de la crise et d'apporter une réponse politique coordonnée et complète. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans cette démarche avec aujourd'hui le sommet de Malte ?
En tout cas, c'était l'esprit de la proposition de la Commission qui a été mise sur la table en avril-mai de cette année, mais il faut reconnaître que depuis ce moment, certains pans seulement de cette proposition globale de la Commission ont été traités. Aujourd'hui, et aussi après les discussions qui ont eu lieu avec la Turquie, on essaye effectivement de renforcer la coordination, la coopération avec les pays d'origine et de transit. C'est sans doute nécessaire, oui.
Est-ce que vous pensez qu'il faut distinguer plusieurs crises, au fond, l'une qui serait conjoncturelle, liée au conflit en Syrie, en Irak, en Afghanistan, et l'autre structurelle qui serait liée, là aussi d'ailleurs parfois à des conflits, mais essentiellement à des questions économiques ou climatiques en Afrique?
Oui, c'est le sens du message qu'on a essayé de faire passer en expliquant que dans cette crise, il y avait sûrement plusieurs crises, que les Syriens ne représentaient finalement qu'une partie des demandes d'asile, pas plus de 35% même en septembre et moins de 30% sur de demandes d'asile provenant de Syrie, d'Érythrée ou d'Irak sur les 6 premiers mois de l'année. Donc il y a bien d'autres nationalités qui sont concernés, par exemple Nigeria ou la Gambie en Italie, la RDC en France ou en Belgique. Donc il y a effectivement d'autres flux migratoires qui ont cours en même temps, et il faut traiter ces différents canaux migratoires de façon différente parce que les causes sont différentes.
La Commission européenne affirme que l'afflux massif de migrants va avoir un impact positif sur la croissance européenne. Elle le chiffre entre 0,2 et 0,3%. Et au-delà, d'ailleurs, pour les pays qui, comme l'a dit Pierre Moscovici, auront un accueil fort, est-ce que l'OCDE partage cette analyse? Vous allez publier demain une note. Alors, vous ne pouvez sans doute pas d'ores et déjà la dévoiler, mais est-ce que vous êtes également sur cette analyse-là?
Bon, clairement, les pays qui sont en première ligne ont dû faire face en renforçant leur capacité d'accueil, en renforçant leur capacité de traitement de ces demandes d'asile. Ça implique des dépenses publiques supplémentaires. En Allemagne, ça se chiffre à plus de 7 milliards d'euros au minimum. Et donc, ça a peut-être un effet de relance à court terme. Ce qui est important, c'est de regarder à moyen et long terme. Et à moyen et long terme, c'est les conditions dans lesquelles les gens qui obtiendront le statut de réfugiés pourront s'intégrer, qui pourra éventuellement faire la différence, c'est-à-dire qu'il faut permettre aux gens d'acquérir la langue du pays d'accueil, qu'on valorise leurs compétences, qu'on intègre les enfants dans le système éducatif. Il faut accompagner ces gens qui ont subi des traumatismes et auxquels on donne le statut de réfugié, de façon à ce qu'ils s'intègrent dans les pays de destination, parce qu'on sait qu'ils vont rester pour la plupart, notamment les Syriens. La crise va durer sûrement encore de nombreux mois ou de nombreuses années. Et donc, ils vont s'installer en Europe. Il faut valoriser leurs compétences par des politiques d'intégration appropriées. Et à ce titre, effectivement, on pourra peut-être voir des effets positifs à moyen terme sur la croissance.
On sait bien à quel point la croissance est difficile à estimer avec précision. On le voit depuis des années. Comment calcule-t-on l'impact économique des migrants et comment on arrive à ce résultat des 0,2-0,3%? Est-ce qu'on n'est pas, comme on dit dans les sondages, dans la marge d'erreur?
Il faut regarder effectivement la note qui a été produite par la Commission européenne, mais qui s'appuie sur des estimations pour les mois à venir des flux attendus et qui, si vous voulez, intègre cet afflux dans un modèle macroéconomique qui leur permet d'arriver aux chiffres que vous avez cités. Mais au-delà, disons, de ce chiffre précis, ce qui est important de voir, c'est que il y a pas à craindre à court terme, disons, pour l'économie européenne. Elle n'est pas menacée par les flux économiques qui arrivent aujourd'hui en Europe, qui au contraire peuvent être un atout si on arrive à faciliter l'intégration des gens qui seront amenés à rester.
Est-ce que les migrants choisissent leur pays de destination en fonction de leur situation économique ?
Alors, ce qu'on voit, c'est que effectivement, la plupart des flux se sont dirigés en Allemagne. On attend entre 800 000 et 1 million de demandes d'asile en Allemagne cette année. Mais des pays comme l'Autriche ou comme la Suède, par habitant, reçoivent aussi un très grand nombre de demandes d'asile. Ce qui est sûr, c'est que y a trois facteurs qui jouent. Le premier, c'est évidemment la géographie. Une fois que vous venez, disons, de Turquie, passant par la Grèce, vous arrivez en Allemagne, vous n'allez pas forcément continuer vers la France ou le Royaume-Uni, alors que effectivement vous avez des opportunités en Allemagne. Le second, c'est l'importance de la communauté déjà installée. Et ça explique notamment les flux vers la Suède, qui a une grande tradition d'accueil de réfugiés. Et donc, les communautés vont rejoindre, disons, les communautés précédemment installées. Et puis le troisième, c'est l'économie. C'est vrai que l'économie allemande va plutôt bien en Europe, qu'elle a une démographie aussi vieillissante et donc des besoins de main-d'œuvre à pourvoir. C'est vrai qu'en Allemagne, on peut accéder au marché du travail au bout de 3 mois pendant l'examen de la demande d'asile. C'est 9 mois en France, c'est 12 au Royaume-Uni. Tous ces facteurs font effectivement que la plupart des migrants qui demandent l'asile aujourd'hui en Europe se dirigent pour l'instant vers l'Allemagne. Mais on voit aussi que l'Allemagne fait face à une grande difficulté pour accueillir ces gens, cet afflux, près de 10 000 personnes par jour en ce moment qui arrivent en Grèce. Et donc, il y a peut-être aussi une certaine limite à sa capacité à accueillir dans ces proportions.
Quel est le profil des réfugiés aujourd'hui en termes d'âge, de formation? C'est un profil assez différent des vagues migratoires précédentes.
Oui, d'une certaine manière, effectivement, ils sont plus les gens qui arrivent de Syrie, notamment, sont plus qualifiés. Environ 40% ont au moins un niveau d'éducation secondaire, disons le niveau du bac, et 15% à peu près, d'après les chiffres dont on dispose pour la Suède, seraient diplômés du supérieur. Mais ce ne sont pas que des ingénieurs et des médecins, bien entendu. Il y a aussi environ 40% de gens qui ont un niveau d'éducation assez faible, et donc ça nécessite, disons, un appui des politiques de soutien, y compris du point de vue linguistique, pour que les gens puissent valoriser leurs compétences sur le marché du travail.
Est-ce qu'on peut connaître la proportion de vrais réfugiés qui fuient la guerre ou les persécutions dans leur pays d'origine et de migrants économiques d'autre part ?
Ce qu'on sait, en moyenne, c'est que le taux de reconnaissance du statut de réfugié se situe autour de 50%. Alors si on considère que les 50% qui ne l'obtiennent pas ne sont pas des gens qui relèvent de la protection internationale, voilà à peu près le chiffre qu'on peut citer.
Merci Jean-Christophe Dumont. Bonne journée.